Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline.
Oh, salut les amis. Attendez, j'écoutais la voix d'Agnès Jaoui, c'est vraiment magnifique.
Ah, on est hyper content de la recevoir.
Mais attendez, on reçoit la chanteuse, la scénariste ou la comédienne?
Ah bah aucune des trois.
Ah, non. La lanceuse de javelot?
Non plus, non. Ah. Elle met en scène un opéra.
Ah. C'est tout faire, c'est une artiste totale, on dirait moi.
Hein, ouais, c'est ça. Enfin bon, elle fait tout bien.
Non mais attends, Alex, il a raison, nous aussi on est des artistes totaux. Et on devrait se lancer dans des nouveaux défis.
Bah, comment ça?
Si on montait notre opéra.
Ouais, ouais.
Et vous allez choisir la Tosca de Puccini comme Agnès Jaoui?
Non, je pense plutôt Par Jupiter enchanté.
Yes,
c'est un petit peu la chanson aux chansons ton truc.
Don Giovanni de Mozart,
oui,
le rôle titre mira merveille.
Ouais. Alors d'abord, tu m'excuseras, mais c'est plutôt moi qui ai un petit talent pour la musique quand même. Alors moi je vous proposerais plutôt Carmen de Bizet.
Ah oh bah non, t'as pas une tête de bohémienne.
Non, en plus j'ai un petit talent pour l'action espagnole. L'amour est enfant de
Ouais. Sinon, Michel Thor est dispo peut-être.
Attendez, moi en tout cas, comme je suis celui qui a le plus de goût de l'équipe, je vais m'occuper des costumes.
Sinon,
on laisse ça aux professionnels à ce moment-là.
C'est mieux. Oui, tout le monde n'a pas la virtuosité de Charline sur le mi bémol, donc
on va se concentrer sur les blagues.
Notre truc, c'est
si je t'aime, prends garde à toi.
Non, les blagues. Uniquement les blagues.
Concentrez sur les blagues.
Vous écoutez la start-up émission, cet espace où l'actualité est dissoute dans la blague, tel Laurent Wauquiez dans les européennes. La grande surprise de cette élection, ce serait donc l'abstention qui recule de façon spectaculaire. Un peu plus de 50% de participation, c'est l'effet waouh. Alors pourquoi tant d'extase alors que c'est quand même vraiment pas terrible comme chiffre, hein, même si le plus déprimant, c'est ce qui arrive à Benoît Hamon.
Bientôt, c'est l'isolement qui tente de noyer en buvant des verres de vin cuit.
L'art peut-il s'approprier le drame des réfugiés? La Biennale de Venise répond oui, en exposant le chalutier qui a fait naufrage en 2015. Devenue donc l'installation, l'œuvre de l'artiste suisse Christophe Bouchel.
C'est un créateur tellement dans le vent qu'il t'attrape deux merdes, les met dans du papier d'alu, il fixe deux hameçons et les vend à la reine d'Angleterre comme boucles d'oreilles.
Les comédies musicales comme Les Demoiselles de Rochefort sont reprojetées au cinéma en version karaoké où la salle chante au milieu de ballons et d'accessoires. Ce qui existe à Londres depuis 20 ans se répand tout doucement en France pour le plus grand bonheur des cinéphiles très mélomanes. Ok, c'est bon. Merci. Lui, il confère aux faits divers la musicalité de la blague. C'est Alex Vizorek.
Mais c'est beau. Bonjour Charline Benonaker. Eh bien, vous méritez une belle équipe. À 17h20, celui qui, en tant que spécialiste de musique, a plutôt mal vécu l'échec politique de Francis Lalanne, c'est vous, Chewbacca. Bonjour.
Ouais.
Ça va, on avait. Ouais. C'est vous la voix.
Non, c'était un lancement, ça. Ouais, c'était bon.
De quoi on va parler?
Mongolie.
Mongolie, le pays, et vous allez parler de musique aussi?
Aussi, oui.
Très bien.
Musique rattachée à la Mongolie.
Très bien. Et bien, donc, voilà un patient. 17h30, lui a chanté tout le week-end à Paris avec son groupe Les Disruptives et Charline et Juliette comme choristes.
C'est vrai.
Ce qui explique sans doute le temps maussade aujourd'hui sur la région capitale. C'est vous, Guillaume Meurice.
Qu'est-ce qu'il est jaloux, celui-là, alors? Moi, je vais vous parler des élections européennes, évidemment. J'étais à la teuf de Nathalie Loiseau avec ses petits poussins.
Ah, vous adorez commencer par les calembours.
Bon, bah, il faut bien gagner sa vie, hein, si vous voulez.
Celle qui, donc, ce week-end ensoleillé, est allée entre deux Ricard chanter avec Guillaume Meurice, celle qu'on appelle Anis Joplin. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Je ne bois pas de pastis.
Oui, mais c'est plus rigolo pour Anis
Joplin. Oui, ça n'excuse pas tous les jeux de mots.
Vous ne buvez pas, c'est juste pour les blagues. De quoi on va parler?
Bien sûr, de la Tosca.
Ah, il n'y a peut-être pas de hasard.
Oui,
non. En effet, car voici celle qui va mettre en scène l'actualité avec nous. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer à nos auditeurs, vous êtes...
Alors, je crois que je suis Agnès Jaoui.
Oui,
merde, on n'est pas
oui,
sûr.
Si,
il me semble. Ça ressemble, en tout cas.
Charline Vanunaker, Alex Vizorek.
Bienvenue Agnès Jaoui.
Merci beaucoup.
Vous allez donc mettre en scène un opéra, Tosca, de Giacomo Puccini. Ce sera dans le cadre de la 19e édition du festival Opéra en plein air, dont la première a lieu le 14 juin au domaine départemental de Sceaux. Il y a une première question qui turlupine Alex.
Oui, mais je vais répondre à ce que vous venez de dire. Je crois que je suis Agnès Jaoui. Quand vous étiez dans l'ensemble vocal Canto Allegre, vous disiez...
Je suis toujours.
Oui, et vous disiez que vous preniez un pseudo parce que vous ne vouliez pas être Agnès Jaoui. Il y a quelqu'un qui est venu vous dire à la fin, c'est fou ce que vous ressemblez à Agnès Jaoui.
Très très exactement. Oui. Je vais vous dire quelque chose qui vous va pas vous faire plaisir, mais je trouve que pour ressembler à Agnès Jaoui...
Ah oui, d'accord, c'est encore plus marrant.
Mais donc, c'est encore plus savoureux.
Donc vous vous sentez pas complètement là, Agnès Jaoui, du théâtre et du cinéma, quand vous faites de la musique classique? C'est ça que c'était, ou c'était pour discrétion vis-à-vis du groupe?
Oui, j'étais par discrétion un peu ridicule, parce que je pense que tout le monde s'en foutait, mais néanmoins, c'est toujours pareil, quand on a un petit nom, on se dit, bah tiens, maintenant je vais faire de la peinture, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je voulais pas que ce soit pris comme ça, et les gens s'intéressent à vous, parce que la célébrité est un passe-droit, des fois, démesuré.
Vous n'avez pas à vous en excuser?
Si, je vais m'excuser de tout, telle une fille. Mais bref, mais surtout, je voulais dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que c'est un grand moment pour moi, puisque je viens de rencontrer, enfin, en vrai, en personne, Chewbacca.
Et ça fait
des années, mais oui, ça fait des années que j'entends sélection musicale Chewbacca, et je me dis, mais qui est cet homme si puissant?
Est-ce qu'il est conforme, il est conforme à votre imaginaire?
Pas du tout.
Alex, donc venons-en à la...
Donc, ma question
quant
à la Tosca, chaque année, donc, quelqu'un, comme vous dites, d'un peu connu est choisi pour mettre en scène un opéra. Est-ce qu'on choisit d'abord la personne et puis c'est vous qui avez pu choisir cet opéra-là, ou c'est l'opéra qui est choisi? On se dit, tiens, ça irait bien à Agnès Jaoui.
Alors, en l'occurrence, on m'a proposé l'opéra directement.
La Tosca.
On m'a pas proposé de choisir, et tant mieux.
Parce que vous auriez pas choisi celui-là, ou ça vous fait plaisir qu'on vous impose
J'aurais
ce choix?
Mis 100 ans à choisir. Donc oui, autant que ce soit fait pour moi.
Est-ce qu'on peut rapidement rappeler peut-être l'action, est-ce que la Tosca de Puccini, l'action qui se passe à Rome en 1800, les troupes françaises qui ont instauré en 1798 une république romaine, donc un fond politique violent et assez fort.
Bah, la monarchie et la république, enfin, et ceux qui veulent instaurer la république se combattent. Il y a Napoléon dans le coin c'est la monarchie qui gagne. Il y a Scarpia qui est le chef de la police de cette Rome, enfin de cette Rome monarchique, qui fait régner la terreur. Et voilà, c'est un peu une époque ancienne et une époque plus progressiste qui se combattent, comme en fait tout le temps.
Ouais.
Finalement,
ouais,
si on regarde bien. Et la petite histoire qui est prise dans cette grande histoire, puisque il y a cette Tosca qui est une chanteuse, une diva, qui n'est pas très politisée, on peut dire, mais qui a un amoureux qui l'est, lui.
Histoire d'amour sur fond politique assez violent. On dit que c'est l'un des opéras les plus violents entre torture, suicide, exécution. On s'attend pas à ce que vous mettiez en scène la violence, Agnès Jaoui. Comment vous allez mettre en scène cette violence, sachant qu'il y a aussi les contraintes de l'opéra?
Figurez-vous que c'est une chose que je ne sais pas encore. Enfin, si, il y a une certaine violence que j'ai commencé à mettre en scène. Et puis, parce qu'il y a une chambre des tortures, mais qu'on ne voit pas, en fait. Et je voudrais, enfin, je cherche à comment, justement, faire ressentir aux spectateurs la peur et l'horreur que ça doit être d'être torturé. Surtout que pendant ce temps, Tosca entend, elle l'écrit, puisque Scarpia dit, ouvrez la porte, qu'elle entende son amant souffrir, justement, pour obtenir d'elle et des renseignements et qu'elle couche avec lui. Et donc, je cherche encore, j'ai des petites pistes et je vais voir si elles fonctionnent.
Donc on va être entre Le Goût des Autres et Game of Thrones.
Alors c'est drôle parce que j'ai souvent pensé à Game of Thrones. Notamment parce que c'est le paradoxe d'ailleurs avec les héroïnes d'opéra, c'est que ce sont à la fois des victimes. Il y a un livre de Catherine Clément qui s'appelle L'Opéra ou la défaite des femmes. Enfin, c'est souvent... Et à la fois... des personnages très forts. À la fois, et Tosca, typiquement, c'est une femme qui est libre, enfin, qui, en tout cas, qui subit ses besoins, qui n'est pas mariée ou je sais pas quoi, qui est libre, qui a un homme librement à une époque où c'est quand même pas très courant, qui est une diva, qui a un certain pouvoir, et à la fois qui va avoir un destin tragique, comme très souvent.
C'est ça les notes de mise en scène que vous avez données, parce que je ne sais pas où vous en êtes dans la préparation. Les chanteurs, vous les avez peut-être déjà rencontrés, vous avez peut-être déjà commencé à travailler.
Oui, bien sûr.
J'ai aucune idée de...
Vers 14 juin,
quand même dans
faut y aller.
Oui, voilà.
Ah, oui.
Il vaut mieux que j'ai commencé un peu.
Non, vous allez leur dire que vous ne saviez pas.
Oui, on va mettre un petit peu. Alors, on va mettre un petit coup de collier.
Il y a encore des zones de doute, et en fait, on arrive sur le décor, véritablement, demain, à Sceaux, au château de Sceaux, où il y aura la première représentation. Jusque-là, on a répété la scène musicale. Donc avec un marquage au sol, donc il y avait des choses un peu virtuelles que je vais maintenant vérifier.
Il y a pas mal d'impro aussi, il faut le dire.
Vous
prenez des mots dans la
foule. Et puis il y a des écrans que j'ai placés, donc je vais vérifier ce qui se ce qui marche, et puis la lumière, enfin, il y a un peu, voilà, tout.
Ouais, à chaque fois en plein air, c'est ça le principe, ouais, hein, du festival.
Et en plein air et pas n'importe où, dans des sites.
Exactement, qui mettent en valeur le patrimoine, même si vous allez mettre le décor de la Rome. De Rome.
Alors, c'est pas tout à fait le décor de la Rome, vous verrez, mais enfin, c'est justement un décor qui essaie aussi de s'intégrer devant les châteaux, enfin, devant lesquels on va jouer, qui est. Bon, bref, il y a beaucoup de.
Très bien. Écoutez, trois petits points de suspension. Sachez que c'est dans le cadre du Festival Opéra en plein air, qu'il y a une tournée ensuite, hein, outre le domaine de Sceaux le 14 juin, du 27 au 29 juin à Vincennes. La fin, ce sera aux Invalides du 5 au 8 septembre. Donc la mise en scène Tosca de Giacomo Puccini par Agnès Jaoui, qui est notre invitée, et Djoubaka, qui est à côté de nous.
Oh là là,
il a choisi, justement, on va vous écouter chanter, avec notamment Nathalie Dessay, Les Eaux de Mars. Vous pouvez nous dire un mot sur ce morceau, Agnès Jaoui et...
Les Eaux de Mars, c'est une chanson de Jobim, de Carlos Jobim, qui vient de la bossa nova, cette mouvance qu'il y a eu dans les années 60 à peu près, je crois, hein, au Brésil, et qui nous avait eu des chefs-d'œuvre et des classiques en fait, hein, dont on se lasse pas. Et c'était Liat Cohen, une guitariste, qui nous avait proposé, enfin qui nous avait réunis, Nathalie Dessay, Léna Noguera et moi. Les paroles là, c'est traduit en français par Moustaki.
Alors on écoute Les Eaux de Mars, Agnès Jaoui, Nathalie Dessay, Elena Noguera, Liat Cohen sur France Inter.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie,
c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant,
c'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars,
c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent,
c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance,
c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine,
un reste de racine, c'est un peu solitaire,
c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire,
une écharde en bleu, c'est la fleur qui monte, c'est un pont de beaucoup, c'est un peu rien du tout,
un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste,
c'est du bois, c'est un jour, un alcool trafiqué, le chemin le plus court,
c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue,
un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Thank you.
Mars, Agnès Jaoui, Nathalie Dessay, Elena Noguera, Eliade Cohen, dans vos oreilles sur France Inter, car vous écoutez Par Jupiter. Agnès Jaoui est notre invitée, car elle met en scène un opéra, Tosca de Giacomo Puccini, à partir du 14 juin, au départ du domaine départemental de Sceaux, et puis en tournée dans toute la France. Il y a une date, le 2 juillet à Carcassonne, sachez-le, dans le cadre du festival Opéra en plein air. Et pour entourer Agnès Jaoui,
eh bien, nous avons Djoubaka, tant attendu, qui parlera de musique en Mongolie. Guillaume Meurice, qui est allé se renseigner quant aux européennes. On est impatients. Et Juliette Arnaud, qui nous parlera de Tosca, la pièce de théâtre avant d'être un opéra.
Et la tragédie de la formation.
Elle est là.
La gauche en France n'est pas morte.
Le journal de presque 17h17.
Bon, je vous le conseille. Elle était essayée.
Et on commence par les titres.
Avec bien sûr les élections européennes et la victoire du Rassemblement National.
Et oui, si certains considèrent ça comme une défaite pour la France, une autre arrive aujourd'hui puisque Joe Wilfried Tsonga et Richard Gasquet débutent Roland Garros.
Quant aux audiences télé hier soir, Bienvenue chez les Ch'tis sur TF1 devance la soirée électorale sur France 2.
Les Français n'en ont rien à taper des européennes. Pour qui s'y intéresse, il faudrait que Danny Boone succède à Jean-Claude Juncker.
Et des brèves.
Oui, parce que je pense que c'est la dernière chose qui intéresse vraiment les Français, c'est les brèves.
Allez, on commence par un retour sur cette soirée électorale.
Oui, la soirée qui était intéressante. Moi, j'ai pas regardé les Ch'tis. Soirée voilà, pleine d'interrogations, de questionnements, des analyses à froid, des résultats.
Le bilan écologique de ce quinquennat depuis deux ans. Non, mais mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. Je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur.
Bon, là, c'est pas un bon exemple. Mais sur les autres plateaux, la quiétude régnait notamment sur TF1.
Monsieur Collard, Monsieur Collard,
ouais, c'est deux mauvais exemples. Mais voilà, on a débattu. Merci Sibeth Ndiaye, Alexis Corbière, Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard.
Une bien belle image des élections, voilà. Donc, qui est reflétée, bien sûr. Plus sérieusement, les élections européennes ont donc vu la victoire du Rassemblement National.
Ouais, mais c'est pas si grave pour l'Europe.
Ah bon?
Mais c'est pas si grave qu'ils aient gagné. Ils sont jamais au Parlement, ces gars-là. Donc,
côté les Républicains, c'est le plus mauvais score historique pour la droite avec 8,4%.
Et en fait, Fillon, il ne doit pas que rendre l'argent, il doit aussi rendre les électeurs, peut-être.
La bonne nouvelle vient d'Europe Écologie Les Verts.
Elle a écrit la bonne surprise en terminant troisième.
La bonne surprise, la bonne surprise, on sait comment ils sont les Verts. C'est comme les Belges en foot. C'est des cadors dans les matchs sans enjeu. Et puis quand on passe à la vraie compète, ils sont sortis.
Ça suffit, c'est le journal.
On ne vous a pas sonné, le journal, c'est annexé moi, Guillaume.
Ah bon, reprenons. Je me mêle. Qui prouve que les Français ne sont pas tous des flèches non plus.
Oui, de nombreux Français cherchent en ce moment sur Google la date du deuxième tour des européennes.
Oui, c'est véridique. Manuel Valls aurait même cherché, c'est encore possible, de s'inscrire pour ce deuxième tour. Mais non, il n'y a pas deuxième tour. Les élections européennes, c'est comme les Français à Roland-Garros, il n'y a pas de deuxième tour. C'est bam.
Dans la série Cocasse, sachez qu'une femme de 95 ans, elle est venue voter et on lui annonce qu'elle est morte depuis 2017.
Et oui, la dame s'appelle le Parti Socialiste.
Passons au reste de l'actu maintenant, car le magazine VSD est condamné pour avoir publié la photo d'une victime de l'attentat du Bataclan gisant sur une civière.
Eh ouais, je savais pas que VSD c'était pour vautours sans déontologie.
Déontologie toujours. Nike est accusé par les Indiens du Panama d'avoir copié leurs dessins pour les imprimer sur un modèle.
Eh ouais, pour leur nouveau modèle, les gars d'El Basket.
Super. Il y aura des brèves.
Coincé 12 heures dans un embouteillage sur l'Everest, il meurt d'épuisement. Voilà, quelqu'un qui n'avait pas consulté Bouquetin Futé avant de partir.
Et la dernière,
sa maîtresse voulait être enterrée avec lui. Un chien en bonne santé sera euthanasié. Est-ce qu'on pouvait vérifier si Vincent Lambert n'a pas de chien? Parce que si on est reparti pour 10 ans d'emmerde.
Merci Alex, vous écoutez Par Jupiter. Agnès Jaoui est notre invitée avant de reparler de Tosca de Puccini, mis en scène par Agnès Jaoui. On va aborder l'un ou l'autre sujet d'actualité, très léger. C'est léger. Parmi toutes les analyses post-élection européenne en France, on s'interroge sur l'emballement positif devant le recul de l'abstention. 51%, faut-il vraiment se réjouir pour la participation? Nous, on a préféré retenir le débriefing d'hier soir entre Nathalie Loiseau et Emmanuel Macron.
Vous avez gagné votre bataille aujourd'hui.
Oui.
Ça n'a pas été trop dur.
Nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. Tout nouveau.
Et c'est répandu, ça, comme technique?
Ah non, ça c'est que nous. Il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Ah non, là-dessus on a une avance considérable.
Un extrait de Kaamelott, bien sûr, la série d'Alexandre Astier. Agnès Jaoui, quel aspect vous préférez retenir, vous, du scrutin? Je dis à dessein, préférez retenir, ça peut être tout à fait subjectif, de toute cette nébuleuse d'analyse et de ce qui s'est passé objectivement. Qu'est-ce que vous préférez retenir, vous?
Moi, je préfère retenir quand même cette espèce de prise de conscience visiblement un peu générale par rapport à l'écologie et par rapport à l'urgence écologique, qu'on appelle. Le fait que les jeunes, quand même, ont participé, moi, je trouve ça bien.
Ouais.
Je m'inquiète. On leur tape tellement dessus aux hommes politiques. Je sais bien qu'ils sont pas tous bien, loin de là, etc. Mais du coup, il va plus y avoir, et c'est déjà le cas partout, les crapules et les fous qui vont vouloir faire de la politique. Parce qu'autrement, faut avoir la foi chevillée au corps.
Mais alors là, comme c'est déjà un peu le cas, si on leur tape pas dessus, ils vont rester. Est-ce qu'on n'a pas le même résultat au final?
Je sais pas jusqu'à quel point. Oui, non, mais je dis pas qu'il faut pas leur taper dessus, enfin, faut pas ou s'en moquer, mais il y a quelque chose à un moment, moi, qui me dérange. Il y a un endroit.
C'est pas plus violent entre eux que la moquerie qu'ils peuvent subir par ailleurs.
Mais c'est pas seulement la moquerie, c'est le manque de considération. Mais il y a pas que, enfin, je veux dire, aussi pour les professeurs, aussi pour les infirmiers, aussi. Enfin, il y a plein de corps de métier maintenant qui sont totalement dévalorisés à tout niveau. Et ça participe de cet individualisme et de ce capitalisme, enfin de ce, il y a des coupables que je trouve bien plus coupables, des industries pharmaceutiques, des promoteurs industriels, enfin des voilà, des immobiliers, etc. Qui pff, tout le monde.
Non, mais est-ce que c'est pas les hommes politiques qui sont censés nous protéger justement de ces gens-là et qui font pas super le taf?
Encore faut-il parfois qu'ils aient les moyens. Il y a ceux qui sont corrompus et sur lesquels il faut vraiment taper. Puis il y en a d'autres. Moi, j'ai rencontré des hommes politiques honnêtes. Je suis désolée. J'en ai rencontré quelques-uns. Je sais pas à quel point vous n'en doutez pas. En tout cas, il y a quelque chose.
Non, mais la désacralisation du politique pose un problème. Vous voulez dire.
Oui, je trouve. Mm-hmm. Voilà, casser l'ambiance.
Quel visage là pour les européennes vous a réjoui de voir arriver, ou façon de faire de la politique qui vous aurait réjoui?
Moi, j'ai aimé ce qu'a dit Glucksmann. Je le trouve. J'ai l'impression que c'est un homme honnête et voilà. En plus, il a pris le nom de notre film pour son parti politique. Oui.
Place publique.
Un beau placement de produit.
Ça m'a assez touchée.
Quand ces hommes politiques là ne versent pas dans le tout comme, dans la provocation, dans les invectives, etc., et quand ils sont peut-être plus pondérés, qu'ils tiennent un autre discours, est-ce que vous trouvez qu'on leur tape dessus en général, de toute façon?
Parfois. Ouais. Parfois, oui. Parfois, par exemple, se moquer tout le temps du fait qu'ils répètent tout le temps la même chose. Je sais que moi aussi, je répète tout le temps la même chose. Si je fais la promo de Tosca, je ne vais pas vous parler de Schmolduc.
Attention, vous allez chez Nagui jeudi.
Ouais.
Répétez pas la même chose.
Ben voilà. Je ne sais pas comment je vais faire. Ben donc,
Parler d'un autre opéra.
Parfois, il y a cette espèce de mode de quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent. Se foutent de leur gueule, quoi.
Mais vous êtes tombé dans la bonne émission, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Si je me trompe pas, votre collègue de travail, Jean-Pierre Bacry, avait tenu à peu près le même discours. Et c'était un peu échappé avec mon camarade Guillaume.
Comme quoi, vous dites bien tout le temps la même chose.
C'est vrai.
Il s'était rabiboché pendant le disque.
Mais c'est intéressant parce que souvent les invités ont plutôt tendance aussi à tirer au bazooka sur les politiques.
Glucksmann, on s'est jamais moqué, nous. Alors là, ça rend
bien.
Non, vraiment. C'est pas le genre de la maison.
Rafou. Bien la famille.
Ouais. Cœur sur Rafou. 17h30 sur France Inter. Agnès Jaoui attend avec impatience la chronique de son nouveau héros, Chewbacca.
Et pas mon nouveau. Mon héros de toujours.
Maintenant que vous l'avez en vrai.
C'est là où je vais pas y arriver. Hein. Bon, il y a quelques mois, on a vu débarquer sur la toile le clip d'un groupe de rock mongol, toute classe dehors. Il s'appelle The You. Ça s'écrit H-U. Et on les voyait en fait évoluer dans les steppes, instruments traditionnels à la main, en train de bastonner les cordes d'un gurun gyur, c'est-à-dire une sorte de violon à tête de cheval, de fracasser leur guimbarde en ayant peur pour leur chicot tellement ça tapait fort, et d'électrifier leur guitare basse avant d'en d'en découdre avec les monstres. Et puis, il y avait bien sûr ce chant diphonique où les graves et les aigus se mêlent dans ce qui semble être un même souffle. Nous sommes en Mongolie. Un drôle de pays avec sa capitale Oulan-Bator qui est une des plus polluées justement du monde. Et de l'autre côté, des steppes immenses où la vie sauvage existe encore et se confronte encore au nomadisme des hommes. Et puis c'est un pays qui a repris son propre destin il n'y a que 30 ans environ. Et quand les Mongols ont repris leur marque, leur liberté, ils ont aussi ressorti les instruments de musique traditionnels qui avaient été un peu mis de côté pour une uniformisation que désirait le pouvoir soviétique et chinois. Alors, quand l'UNESCO a classé le chant diphonique, le Kurmei, au patrimoine immatériel de l'humanité, il a aussi donné en fait une visibilité à d'autres populations nomades, ceux de la République de Tuva, en Sibérie, des steppes mongoles jusqu'en Chine. Alors, il y a eu une sorte de mode, c'est-à-dire qu'on a vu du chant diphonique absolument partout dans les festivals, on a eu des grands producteurs de musique du monde signer ces groupes, et puis les populations d'origine mongole qui vivaient en Chine, à Pékin ou à Shanghai, ont commencé à monter des groupes. Et puis, à un moment... Ça a disparu, ça s'est dilué, on ne sait pas où c'est parti, mais on les a plus revus sur scène et ça s'est un peu enfui. Alors, par contre, on avait tous les chamans du dimanche là qui faisaient du chant diphonique. Mais pendant ce temps-là, pendant cette déperdition, à Oulan-Bator, les héritiers de Genghis Khan ont jeté leur frein. C'est les U. Ils ont tous appris à jouer en fait au conservatoire d'État mongol et ils ont replongé ainsi dans leur culture qu'on avait omis de leur apprendre et de leur raconter auparavant. Alors ce U, ça veut dire être humain. Et ils appellent leur style le Unurok. C'est ce qu'on entend derrière. Et le premier disque aura pour nom Guérec. Et Guérec, c'est le nom d'un passeport diplomatique de l'époque de Genghis Khan. C'est-à-dire qu'ils sont prêts là vraiment à envers le monde. Et dans tous les clips du groupe, en fait, il y a l'idée de mettre en opposition hier et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un décalage toujours qui est ironique. Le cheval est remplacé par des bécanes, on a des gangs de bikers à la place des hordes du Khan. Ou alors, ils jouent des personnages qui sont vraiment pris dans la culture occidentale. Ils regardent le foot de façon complètement lobotomisée, ils bouffent des pop-corns, etc. dans des tout petits apparts. Ils ouvrent la fenêtre et là, ils sont sur le vaste monde. Quoi, voilà. Et... depuis le début des années 2000, en fait, à Oulan-Bator, on écoutait du rock, on écoutait du hip-hop, mais il n'y avait pas ce son en particulier. Et ce qui ressurgit aujourd'hui, en fait, c'est que l'idée d'une identité, ou de retrouver une identité, passe par la connaissance de la musique traditionnelle et de son utilisation, en fait, dans un monde moderne. Comme s'il était plus facile, en fait, de faire passer son message en mélangeant les sons des siècles passés. Et le même phénomène musical est en train de se passer en Inde avec des groupes de métal absolument incroyables, en Nouvelle-Zélande avec des groupes maoris. Et tous ces gens sont en train de redonner une vie contemporaine à la musique, à leur musique, à celle de leurs ancêtres, tout en ayant une vision politique. Alors il faut avoir se méfier des nationalistes quand même dans l'affaire, parce que ça peut arriver. Hein. Et en général, ils viennent tous d'ethnies qu'on a voulu soit assimiler, sans jamais, et qu'on n'a jamais réussi à parvenir à assimiler. Alors le métal est quand même en train d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore. Le Guérec, l'album, elle sera dispo sur 117 Music, un gros label de hard rock. Les mecs seront en concert à Paris le mois prochain et seront aux Eurokéon de Belfort cet été. Et on écoute le totem du loup. Waf totem.
rock mongol, donc, de Who, H-U.
Ouais.
On a écouté Wolf Totem. Vous m'avez envoyé le clip Chewbacca que je conseille de voir parce qu'il est sublime, il est très très beau. Et donc, ils sont en concert bientôt à Paris.
Ouais, le 19 juin à Paris. Et puis aux Eurocaines cet été, mais je pense qu'il y a des dates qui vont tomber en plus. Parce que s'ils passent par la France, on va les garder.
Merci Chewbacca. Je rappelle que l'expo de la revue qualitative d'art Outsider Underground, Hey, vous êtes en exposition à la Halle Saint-Pierre. Nous y sommes allés samedi et je vous la recommande chaudement si vous avez l'occasion. Et il y a un nouveau numéro de Hey, votre revue, qui est disponible dans toutes les excellentes librairies.
Que c'est bien dit.
Hein à la Halle Saint-Pierre, donc, Chewbacca & Co. Nous sommes en compagnie d'Agnès Jaoui, jusqu'à 18h, qui vient de nous parler de la mise en scène d'un opéra, dans ce cas de Giacomo Puccini, dans le cadre du festival Opéra en plein air. C'est dans toute la France, vous pouvez le voir par exemple le 2 juillet à Carcassonne, ou alors du 27 au 29 juin à Vincennes. On va y revenir tout à l'heure, Agnès Jaoui, avec Juliette Arnoux, qui s'est penchée sur le livret, la pièce dont est tiré le livret de l'opéra. Et en attendant, vous allez kiffer parce qu'il caresse le politique dans le sens du poil.
Ah, là, c'est
vous
spécial.
Allez avoir votre dose pour aujourd'hui.
C'est spécial, Agnès Jaoui, aujourd'hui. Je ne vais pas du tout me moquer des politiques qui font un super boulot. Je vais vous parler des élections européennes, évidemment. Ça y est, on est arrivé au bout du suspense. Avec d'abord du soulagement, on a enfin trouvé une place en EHPAD pour Bernard Guetta. L'établissement s'appelle le Parlement européen de Strasbourg. Puis on espère qu'ils vont bien s'en occuper. De la surprise pour les Verts et même pour le parti animaliste dont le petit chien sur l'affiche a fait mieux que pas mal de blaireaux dans les autres listes. De la tristesse aussi pour François-Xavier Bellamy, hein, le petit prince des réacs, comme on l'appelle, qui s'est pris une veste. Voilà, on espère que c'est du Loden, hein, ça ira avec ses mocassins. Les gens de droite ont préféré la liste du Rassemblement National. L'extrême droite est quand même passée du maréchal Pétain à Bardella en quelques dizaines d'années. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un ravalement de façade radicale qui n'est pas sans rappeler le visage de Mickey Rourke. Heureusement, on a chez nous notre rempart contre l'extrême droite en la personne de Nathalie Magic Loiseau. J'étais hier soir à la mutualité où était organisée la teuf à Nataloche. L'ambiance était quoi? Attention, je vous vois rigoler, Agnès, c'est pas très bien. L'ambiance était dingue avec notamment le fameux hymne à sa gloire.
Nathalie Loiseau, je crois pas que vous connaissez, c'est notre tête de liste, elle va tout casser, on vote Nathalie Loiseau.
Excusez-moi, ça me fout les frissons. Ça c'est de l'opéra, Agnès, voilà, prenez des notes un peu. Chewbacca, je veux pas vous apprendre votre métier, mais bon, pour moi c'est playlist, hein, direct ce genre de truc. Le problème c'est peut-être le texte, parce que quand elle dit, bon, elle va tout casser, bon, le dernier truc qu'elle a cassé, Nathalie, c'est les couilles de toute son équipe de communication pendant la campagne, donc... Mais bon, elle est classée, donc on l'a vu derrière ses anciens copains étudiants d'extrême droite. Est-ce que les militants étaient déçus de cette défaite?
Une présidentielle, j'aurais été déçue parce qu'on aurait perdu, mais là on n'a pas perdu, on a gagné. Au final, on a même peut-être plus gagné que le RN parce qu'on va apprendre vraiment. Le Rassemblement National, ils avaient déjà gagné en 2014, ils n'ont rien fait. Nous, on a perdu, si vous voulez, en 2019, mais on va sûrement mieux faire qu'eux.
Donc, si le déni était un pays, il s'appellerait la République en marche. Hein, ils ont gagné car ils ont moins perdu que prévu, donc on en est là. Ce qui est un remède d'ailleurs ultra efficace contre le seum. Hein. C'est exactement le même principe que de dire on a une super possession de balles en demi-finale de Coupe du Monde.
Oh, ça va.
La même
ça va.
Donc, je ne visais personne. Je ne visais personne en particulier. Ouais. Donc, tout va bien, les militants de la République en marche sont soulagés.
Soulagés de ne pas être autant déçus que prévu.
Comment ça se manifeste, d'être soulagé de ne pas être autant déçus que prévu?
Ben, t'as envie de chialer quand même un petit peu, mais bon, tu te retiens.
C'est-à-dire, vous chialez à l'intérieur de vous-même?
Un petit peu.
Voilà, c'est très pratique pour s'hydrater de l'intérieur. Et ça se voit pas, on peut aller sur tous les plateaux télé, dire que tout va bien. Une vista politique qui n'est pas sans rappeler celle du capitaine du Costa Concordia. On peut même parler de plagiat à ce niveau-là. Quand le sage montre le Panzer, le militant en marche regarde son nombril. Autant dire qu'au championnat du monde de la remise en question, les chances de médailles sont pas dingues. Comment ils analysent le score du Rassemblement National?
Bon, ils cultivent les problèmes, les souffrances des gens, mais ça apporte aucune solution.
Est-ce que c'est pas Macron et sa politique qui créent les souffrances qui sont ensuite récupérées par le Rassemblement National dans les urnes?
C'est sûr qu'il a engagé pas mal de réformes importantes, donc ça perturbe la société, ça dérange les avantages acquis, etc. Donc,
est-ce que prendre aux pauvres pour donner aux riches, c'était la bonne idée?
N'oublions pas qu'on est un des pays où l'assistance et le rapport aux pauvres est le plus développé.
Mais, oui, mais c'est ça que les pauvres ne veulent pas comprendre, bordel. Ils crèvent dans un beau pays. Il faut leur... Ils crèvent dans la rue, mais sur les Champs-Élysées, quand même, ça a de la gueule. On a des clochards qui ont de la chance, mais qui s'en rendent pas compte. Ça, c'est le drame français. On a des travailleurs qui font des burn-out, mais dans des entreprises qui marchent, bordel. C'est la France, c'est la Macronie. Il faut arrêter de se plaindre et dire les choses clairement.
On m'a appris à dire la vérité, qui n'a pas toujours toute la vérité, mais qui est la vérité.
Alors dites-moi ça, ouais, ça m'intéresse.
Vous avez le sens des responsabilités. Je côtoie en marche beaucoup plus de socialistes que je n'en ai jamais côtoyé quand on était à l'UMP ou avant à l'UDF.
Bah alors attendez, parce que qu'est-ce que c'est un socialiste? Est-ce que Manuel Valls, il est socialiste pour vous?
Pour moi, Manuel Valls était un socialiste.
Oui, il était, ça a duré un quart d'heure. Exactement, on a calculé, il s'est cogné l'orteil sur l'intégrale des discours de Jean Jaurès et il a été socialiste. Il était dans le même parti que Mélenchon à une époque, hein, quand même. D'ailleurs, aujourd'hui, il se retrouve au niveau des succès électoraux. La dégelée politique, c'est moi! Excusez-moi. Et au fait d'En Marche, d'ailleurs, on retrouve d'anciens militants de la primaire de Valls. Et j'avoue que c'est toujours un plaisir, l'occasion de parler de la défaite à Manu.
C'était un peu attendu, hein.
Je crois. Merde.
Non, c'est la vie. Les politiques, on a des succès, on a des défaites.
Et il n'y a pas eu de remontada, quoi.
La remontada, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais. Je sais pas, il faut voir le score.
Lourde défaite, il dit ça.
Ah ben, c'était attendu. Donc branlada.
Ouais, branlada, la fameuse branlada. Celle qu'on se prend quand, au lieu de lutter contre l'extrême droite, on applique son programme. Hein, quand on dit que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer dans la République ou quand on parle de shopping de l'asile. Il semble bien que l'histoire repasse les plats et que ce soit toujours autant imbouffable.
Merci Guillaume Meurice. Et d'ailleurs, j'explique aux auditeurs ce qui s'est passé hier soir.
Oui.
Vous m'avez écrit hier soir, je suis à la Mutualité, à la fête à Nataloche. Et la Mutualité étant voisine de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, je suis victime de certains intégristes qui me menacent. Et là, vous avez été protégé par le service de sécurité de la République En Marge, donc
les nouveaux Benalla sont venus vers moi très gentiment en disant « On a entendu quelques personnes qui parlaient sur vous du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay, donc on vient voir. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. »
Ils vous ont agressé ?
Non, ils ne m'ont pas agressé justement, mais comme ils ont entendu, la Sécu a entendu quelques paroles.
Ils voulaient venir chicailler Guillaume Meurice. Et la Sécu avait plus peur pour Guillaume que pour Nathalie Loiseau, figurez-vous. Allez, on poursuit l'émission avec Agnès Jaoui en attendant la chronique de Juliette Arnaud. Et parlons de la Biennale de Venise qui expose le chalutier qui a fait naufrage en 2015 avec 700 réfugiés à bord et seulement 28 rescapés. Ce qui pose cette question, l'art peut-il s'approprier le drame des migrants? Et si oui, de quelle manière? Les détracteurs de cette installation, de l'artiste suisse Christophe Bouchel, imaginent les visiteurs à la Biennale de Venise buvant un spritz en contemplant cette œuvre.
Oh, mon Dieu, que c'est beau! André, doux Jésus, que c'est beau! Oh, regardez-moi ce paysage que vous avez là. Willy, n'avez-vous jamais rien vu? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
Pourtant, vous venez tous les ans, hein? Vous venez tous les ans.
Bah, dites donc, vous, grand méchant, vous me prenez pour un exalté et... Ou alors je viens trop fréquemment, c'est cela?
Un extrait du film Maloute, le film de Bruno Dumont. Alors à Londres, le Guardian est choqué. À Rome, Il Manifesto trouve ça chambé pour la prise de conscience. Les deux articles sont rassemblés dans le Courrier international. Alors c'est une question qui est extrêmement complexe, mais on sait que la question des réfugiés est une question sur laquelle vous réfléchissez beaucoup aussi, Agnès Jaoui. Vous flairez un soupçon de provocation où vous penchez pour la prise de conscience et que ce chalutier y trouve sa place à la Biennale de Venise pour continuer à secouer le cocotier et les consciences.
Je trouve pas que ça mérite une polémique aussi grande. L'art, il est aussi fait, enfin, beaucoup pour déranger. On n'en parlerait pas, en tout cas maintenant, s'il n'y avait pas eu cette exposition. Après, voilà.
Du coup, c'est bien, parce que ça nous amène cette polémique qui fait parler du problème des réfugiés.
Oui, plutôt. Plutôt.
Je suis plutôt d'accord avec vous, mais il y a eu grand débat dans le bureau et c'est assez intéressant. Parce que...
Il y a deux points de vue. Le fait peut-être d'en faire une œuvre et de l'exposer dans un cadre artistique. Les détracteurs, en tout cas dans le Guardian, disent pourquoi ne pas le mettre devant des institutions? Pourquoi est-ce qu'on ne l'exposerait pas plutôt devant le Parlement européen?
Ça n'empêche pas. Peut-être qu'après, il sera. Mais le radeau de la Méduse, il se trouve que c'est un tableau, mais enfin, c'était aussi. Ça faisait référence à une actualité. À Non, je trouve pas ça inintéressant.
Tosca est une pièce politique, et on va le voir quand Juliette nous parlera du livret. Ouais. Est-ce que vous avez intégré des choses contemporaines dans votre mise en scène? Est-ce que vous avez contemporanisé les choses, ou vous avez voulu faire quelque chose de classique, comme Puccini l'avait imaginé?
J'ai pas... Enfin, par exemple, les costumes, tout ça, c'est pas du... c'est drôle d'ailleurs, parce que... Enfin, je vais terminer une phrase, je vais essayer. je suis pas, en tout cas, c'est pas 1800 pile. Voilà, ça je veux dire. Mais en vérité, la représentation qu'on a dans la tête d'habitude de Tosca, à savoir la Calas habillée façon empire, etc., elle est pas très juste non plus, parce que à l'époque, enfin d'abord déjà, à l'époque, tout le monde n'était pas habillé pareil, comme aujourd'hui. On vit des époques différentes à la même époque. Et donc, il y avait encore, pour justement, tous ceux qui représentaient la monarchie, la perruque, comme avant, etc. Et puis, il y avait ceux en cheveux, enfin, les hommes, etc., parce qu'ils étaient plutôt du côté des voltairiens, des révolutionnaires, enfin, des gens qui étaient pour la République. Donc, déjà, et bon, j'ai pas eu envie, on n'a pas eu envie avec Pierre-Jean Larocque d'être dans une reconstitution minutieuse, mais par contre je ne l'ai pas modernisé non plus.
Personne
c'est pas aujourd'hui.
Costard.
Personne n'est en costard. Enfin, les hommes sont pas tellement différents d'aujourd'hui, parce que c'est malheureux, mais vous n'avez pas beaucoup d'imagination ces derniers temps. Bon, mais
attends,
c'est pas.
Non, mais... Un beau pull bleu en laine,
oui, vous êtes en bleu, c'est vrai. Waouh.
Mais c'est moi qui ai le plus d'imagination en matière
vestimentaire. Non, mais voilà. Enfin, bref. Donc c'est. Mais bon, c'est quand même des costumes, oui, de plutôt 1800, 1830. Enfin voilà.
Et je tiens, c'est sous la direction musicale de Yanis Pousporikas.
Yanis Pousporikas, voilà. Absolument.
Eh bien, Juliette Arnaud, revenons donc à cet opéra, Tosca, de Giacomo Puccini.
Oui.
D'où vient-il ?
Alors, surtout, c'est une pièce, la Tosca, et c'est tellement français que l'auteur s'appelle Sardou. Mais victorien, hein, évidemment, qui ne s'appelle pas Michel, et rien à voir. On a vérifié avec Alex, c'est pas la même famille. La Tosca, c'est une pièce de théâtre française donc, et qui est peu à peu tombée dans l'oubli, tandis que l'opéra de Puccini est un classique, et était déjà un succès à l'époque, et est restée. On s'en fout, après tout c'est aussi ça l'Europe, les Français écrivent des pièces qui deviennent des livrets, la Tosca, la Dame aux Camélias, que mettent en musique des Italiens, la Tosca, la Traviata. Bref, j'ai lu cette pièce, j'ai lu la Tosca, j'y suis allée, je vais vous dire la vérité, en pied de béton. Lire du théâtre, c'est pas forcément agréable. C'est un peu comme lire une notice d'explication de montage de meubles sans monter le meuble. Passe à côté du principe même de la joie. Mais pas là, pas sur la Tosca. Là, ça vaut le coup. D'abord, cette pièce, elle a quelque chose de maudit dans un monde, celui du théâtre, qui est déjà cafi de superstition. Elle aurait rendu notre Sarah Bernard, quasiment la Charles de Gaulle du théâtre français, unijambiste. Ouh ! Excitation. Alors, on est en 1905, Rio de Janeiro. Sarah Bernard joue pour la dernière fois la Tosca, donc à Rio. C'est la scène finale de la pièce qui est écrite, qui a été écrite pour elle par Victorien Sardou. Elle aime beaucoup ce rôle, elle l'a joué des dizaines d'années. Elle saute du parapet dans la scène finale. Les machinistes ont oublié de mettre des coussins. Oh. Elle a quand même 60 ans pâchée à l'époque, ouais, Sarah. Oui. Elle se blesse au genou 10 ans plus tard. Gangrène, amputation. Ça craint. Ensuite, la pièce en elle-même. On est en 1800, pendant la bataille de Marengo, à Rome. La patronne de Rome, c'est la petite sœur de Marie-Antoinette, plus royaliste que le roi. Et l'ambiance, c'est, et là je cite Victorien Sardou, « Rome a de quoi vous distraire, pourvu qu'on ne se mêle ni de politique, ni de religion. La liberté y est complète. » Voilà, là, on voit à peu près quelle est l'ambiance. On se dit donc que c'est une histoire qui traite de politique et de la liberté et de ceux qui s'emploient à la maintenir réduite aux aquets. Et puis apparaît une femme, elle s'appelle Floria, on l'appelle Tosca, elle est cantatrice. Son mec dit d'elle, l'artiste est incomparable, mais la femme, ah la femme. Elle est très jeune et elle est très amoureuse de son mec, donc un peintre, Mario, aux moustaches de révolutionnaire et aux convictions à l'avenant. Jusqu'ici tout va bien, sauf que Tosca... toute dévouée à la Madone qu'elle soit, bah oui, Guillaume, fais pas cette tête, elle est italienne, c'est la base d'une italienne. Tosca, donc, est habitée par un démon, celui de la jalousie. Vous croyez avoir tout vu, tout entendu de la jalousie avec Shakespeare et ce monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit, Othello. Vous avez tort, Victorien Sardou, surclasse Shakespeare. Ils avaient pas qu'à foutre le camp et faire le Brexit. D'un truc... Oui, rien à voir, je sais. D'un truc finalement domestique, on bascule dans la politique puisqu'on est à Rome en 1800 et que Bonaparte est en train de mettre une dérouillée aux royalistes européens. L'immonde Scarpia, patron des flics, va manipuler Tosca et sa jalousie pour mettre la main sur un prisonnier politique protégé par Mario le peintre. Rusé Scarpia qui va laisser le démon de Tosca, la jalousie, faire son sale boulot. Il le dit lui-même, quel policier vaut une femme jalouse ? Immonde Scarpia, extrêmement flippant, salaud intégral, sadique et violeur. Et c'est là que les mots de Victorien Sardou pèsent durement. Quand il propose, très clairement, quand il explique plus clairement à Tosca qui, si elle veut sauver son mec, va falloir coucher avec lui, elle lui dit « mais je ne peux pas, je vous hais ». Et il lui répond « ah, tu me hais, et moi je te veux, et je me promets une joie diabolique de l'accouplement de mon désir et de ta haine ». Voilà,
MeToo direct.
Ah, mais là, on est au-delà de MeToo. C'est une violence. Les mots, imaginez, Victorien Sardou, un homme à la fin du 19e. L'accouplement de mon désir et de ta haine. Cette pièce qui commence comme une comédie de mœurs avec cette femme à l'apparence frivole et un peu hystérique, elle est jalouse. Elle est très piégeuse parce qu'elle parle de la violence morale, bien sûr, mais physique, de celle que peut employer le pouvoir quand il n'a rien de démocratique. Tout y passe, la torture, le viol, le meurtre. Et là, vous allez me dire, est-ce que Floria, la Tosca, est une femme forte ? Eh ben non. Et puis oui, victime d'elle-même et puis de Scarpia, elle se réveille au moment du pire, sa conscience tout entière, juste avant d'en finir avec un choix à la Camus, elle s'écrie avant de mourir, « Prends-la donc, entre parenthèses, ma vie, que je n'ai plus l'horreur de vous voir, bandits qui faites de telles choses, peuple pourri qui les accepte, soleil infâme qui les éclaire. » Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnoux.
Vous avez spoilé un peu quand même la fin.
Alors, j'ai le droit de spoiler. L'opéra a 300 ans.
Oui, mais moi, j'avais pas vu. Du coup, je vais pas y aller parce que je connais la fin.
Vous vous êtes procuré facilement la pièce ?
Alors, non, c'est super difficile de trouver cette pièce.
Oui, c'est vrai, on la trouve pas facilement. Enfin, on la trouve.
Donc, mais si, de toute façon, c'est bien, elle est en PDF sur Internet.
Disponible.
Disponible.
Et puis, il y a toujours, bien sûr, l'opéra.
Et il y a l'opéra.
Voilà. Notamment le 14 juin au domaine départemental de Sceaux avec la mise en scène d'Agnès Jaoui. On va aborder ce dernier sujet léger parce qu'on a parlé de choses un peu lourdes avant. En France, quelques salles de cinéma s'ouvrent au karaoké pendant la projection de comédies musicales cultes. Telle les Demoiselles de Rochefort, le biopic de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Une tradition depuis 20 ans en Angleterre, une nouveauté dans nos contrées, moins fans de comédies musicales et on sait pourquoi.
La fille à la fin avec les bouclettes blondes qui arrive, qu'elle est triste, avec la belle robe, elle est là, elle arrive. Et comme toutes les nouvelles chanteuses, elle commence sa chanson par oh, hi, hi, hi. Oh, hi, hi. Et les paroles sont bien. Pourquoi être amoureuse de quatre personnes? Ça fait souffrir.
Gad Elmaleh.
Il est drôle.
Mais oui,
il est devrait drôle. Écrire plus.
Agnès Jaoui, vous travaillez pour le cinéma et le chant est votre passion. Est-ce que les comédies musicales réussissent à vous combler, qui réunissent les deux ?
Ça
dépend lesquelles. Ah, ouais. Il y en a qui sont dans votre panthéon des comédies.
Ah oui. Les celles de Stephen Sondheim, elles sont absolument phénoménales. Il faut voir Little Night Music dans sa vie. Il faut voir Into the Woods, enfin toutes ces pièces qu'on peut malheureusement essentiellement voir à Londres, même si Chopin en a ramené quelques-unes à Paris, c'est des chefs-d'œuvre et que ce qui est fabuleux, c'est que les plus petits au plus enfin à tout âge, ça vous parle à tout âge. C'est d'abord musicalement, c'est d'une richesse folle et puis puisque ça raconte aussi, c'est remarquable. Mmh.
C'est et ce serait au point d'aller partager cela dans une salle de cinéma avec
moi, je trouve ça chouette comme idée plutôt.
Ça se fait à Londres depuis très très longtemps et ça commence tout doucement en France.
C'est parfois pénible hein. Moi j'ai été à un concert de Sardou, le type devant connaissait bien toutes les paroles. C'était pénible.
Et rapidement pour terminer, est-ce que l'opéra diffusé au cinéma aussi, c'est quelque chose de séduisant ?
Alors, j'y vais pour la première fois bientôt, donc je vous le dirai. Mais bientôt, oui, ça vous embête pas, je vais donner mon avis, parce que je sais que ça vous importe énormément. Mais à part ça, je conseille quand même à tout le monde d'aller écouter l'opéra en vrai.
Si on peut.
Ça n'a... Oui, mais on peut. Bien sûr, on peut, c'est pas compliqué et c'est pas très cher. Ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Donc des fois,
faut se méfier de la retransmission, parce qu'on peut se dire...
Mais peut-être qu'elle peut emmener des gens.
Elle peut emmener.
On peut passer par le cinéma et puis...
Oui, bah, on peut passer par...
Le spectacle vivant, c'est partout, le spectacle vivant.
Vous
en fin d'émission, Anne Jaoui, on propose toujours un sketch à l'invité pour jouer avec nous. Ah. Est-ce que vous acceptez le rôle de coach des Français à Roland-Garros?
Mais bien sûr.
Alors attention, c'est vous le coach. Guillaume Meurice et moi-même, on est tennisman, on est prêts, on va tout donner. Et Charline arrivera un petit peu plus tard dans le sketch. Aïe, vite, un docteur là.
C'est grave?
Très grave, coach.
Une fracture?
Presque, je me suis coincé le petit doigt dans la fermeture éclair.
Mais pourvu qu'on t'ampute pas.
Oh les gars, on se motive, on vise au moins la deuxième semaine.
Quoi?
Oh. J'ai dit on vise la deuxième semaine.
Il y a une deuxième semaine? Ah, ça m'étonnerait, tous les ans on pose nos RTT à cette période là, donc
Vous avez des RTT?
Plein? Bah en vrai ce sont nos adversaires là qui nous les imposent.
En fait, chaque match est suivi de 15 jours d'RTT.
Ouais, jusqu'au tournoi suivant, voilà.
Et ça vous dirait pas de succéder à Yannick Noah?
Ah bah sûrement pas.
Non.
Vous voulez pas gagner Roland?
Non, on va pas se mettre à chanter pieds nus.
Bah non, les tennismans, on est pas les touristes.
Bah ouais.
Alors prouvez-le, allez, hop, petit footing d'échauffement.
Pourquoi on va faire ça?
Bah non, on court déjà pas sur le terrain, c'est pas pour courir en dehors.
Ok, ce qu'il vous faut, c'est une préparation mentale.
Ok, pour encaisser l'interview de Nelson Monfort.
What a formidable Brownlee, unbelievable.
Non, j'ai convoqué une gagnante. Voici Justine Hénin, quadruple vainqueur de Roland-Garros.
Salut les losers.
C'est pas un peu trop là, 4 victoires à Roland-Garros?
C'était chez les dames, hein, même Marie-Pierre s'est gagnée.
Bah, écoutez, je suis là pour vous apprendre à gérer la pression, the pressure.
Comment ça la pression?
Elle est pas plus cool que nous.
Il faut tout travailler, la confiance, the confidence, le mental, le spirit, tu vois.
Oui, yes, elle a raison. Faut croire en vos chances. Hein.
Lol. Et si on changeait plutôt les règles, non?
Vous voulez quoi? Baiser le filet? Non, pardon. Non.
Baiser le filet, ouais, ils vont jouer à rien. Pour voir s'il est consentant.
Hashtag mytho Roland. Non, peut-être il faudrait...
Balance ta volée.
Oh, ça va, hein. On peut pas baisser le filet. Baisser le filet.
Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'au tournoi, il n'y ait que des joueurs français. Quoi.
Et c'est pour ça que...
De quoi?
On a voté Rassemblement National.
Bah, comme voilà. Ça, Nadal ira chez lui. Et puis
c'est tellement mieux quand c'est Agnès Jaoui qui écrit, évidemment.
Oui, excusez-moi.
Merci beaucoup, Agnès Jaoui, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle que vous mettez en scène la Tosca de Giacomo Puccini sous la direction musicale de Yanis Pouspourikas et ce sera dans le cadre du festival Opéra en plein air. La première a lieu le 14 juin au domaine départemental de Sceaux. Il y a une date le 2 juillet à Carcassonne. Avant cela, 27 au 29 juin à Vincennes.
Et avec les voix sublimes, pardon, de Teddy Sietim et Jean-Luc Balestra, entre autres.
Oui. Voilà. Et alors la fin. Non, je vous en prie, bien sûr, il faut les citer. Et fin aux Invalides du 5 au 8 septembre.
Et Charline vient d'en faire les cœurs, je crois, sur une représentation.
Agnès Jaoui, on vous laisse le mot de la fin.
C'est un grand moment pour moi puisque je viens de rencontrer enfin, en vrai, en personne,
Chewbacca.